Bonjour, merci d'écouter le Grand Face à Face, le programme jusqu'à 13h, la semaine des humoristes de France Inter, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, avant le débat avec notre invité, le président fondateur de Mediapart, Edoui Plenel publie la victoire des vaincus à propos des gilets jaunes. Sa thèse, quand bien même leur victoire ne serait qu'éphémère, ils auront malgré tout gagné, en imposant leur agenda au débat public, en redevenant les acteurs de leur propre histoire. Mais comment désigner les gagnants et les perdants d'une lutte qui n'est toujours pas terminée? Rendez-vous avec Edoui Plenel dans une trentaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter. Mise en onde par Jérôme Boulet. Et on démarre avec le Salon de l'Agriculture, inauguré par le Président de la République et qui accueille de très nombreux Parisiens, parmi lesquels Daniel Morin.
En période de Salon de l'Agriculture, le soir, aux terrasses des cafés parisiens et au son de l'accordéon, on voit des vaches prendre l'apéro. Devant les monuments, des cochons se prendre en photo. À la sortie des magasins, des pintades, faire les coquettes en chaussures Louboutin. Bref, c'est un peu les vacances à la ville. La journée, en revanche, Porte de Versailles, sérieux. Hein, tout ce petit monde est en mode animal de ferme pour distraire le Parisien. Qui dit Salon de l'Agriculture, bien sûr, dit inauguration par le Président de la République. Le record de présence d'un président sur le salon, c'était l'année dernière. Emmanuel Macron, 12h30. Cette année, il fait encore mieux, 14h40. 14h40, c'est énorme, c'est dingue, c'est limite inhumain. Oui, car comme le rappelait Mathilde ce matin dans le couloir, faut du courage quand on sait à quel point les gens de la campagne sentent fort.
Et en plein Salon de l'Agriculture, Sophia Aram a souhaité revenir sur un lien très étrange entre l'agriculture intensive et l'hygiène féminine, la persistance du glyphosate dans les tampons hygiéniques.
C'est quoi cette idée de mettre des herbicides dans nos culottes? Pour tuer les mauvaises herbes ou pour nous éviter de nous retrouver avec une pelouse à la place du pubis? Non, je veux bien que vous confondiez notre jardin secret avec un champ de maïs, mais il y a un moment où il faudra quand même redescendre un peu de la moissonneuse-batteuse et discuter risques sanitaires ou tout simplement espérance de vie. Parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, le réceptacle qui entoure le tampon et que vous avez tendance à considérer comme un hangar à herbicides, ça s'appelle une femme. Alors une femme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un organisme vivant et qui, comme tous les organismes vivants, aspire à le rester le plus longtemps possible et de préférence en bonne santé. C'est dingue, non? Et non, ce n'est pas parce qu'une femme a en moyenne 13 menstruations par an et qu'elle utilisera 10 560 protections périodiques dans sa vie qu'il faut en profiter pour y écouler vos surplus d'herbicides. Alors, si on pouvait éviter de nous empoisonner le minou et considérer ensemble qu'on est en droit de savoir exactement qui on invite dans nos culottes, parce qu'à ce jour, je ne suis pas certaine que beaucoup de femmes aient consciemment invité Monsanto ou d'autres industriels à venir nous rendre une visite aussi intime.
Et puis la polémique de la semaine, évidemment, ce hijab de running proposé par Decathlon, produit passé au banc d'essai par Guillaume Meurice.
Et en effet, un hijab de sport, micro-alvéolé, 92% polyester, 8% élastane. On attend la revendication de Daesh pour en savoir plus sur le lavage en machine. Rien que d'en parler, ça me fout la chair de tagine au poulet. Défier ainsi les valeurs de la République, c'est inacceptable. Alors rassurez-vous, suite au scandale, Decathlon a retiré son article de la vente, mais la cicatrice reste profonde pour un peuple de France traumatisé. Et on commence avec ce monsieur sous le choc, mais soulagé.
Chez eux, ils font ce qu'ils veulent, mais quand je dis chez eux, c'est oui, les gens qui portent le voile, etc. Effectivement, ils n'ont rien à faire ici. Voilà, moi, je ne suis pas raciste.
Voilà. Et en plus, il n'est pas raciste. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, il n'est pas raciste du tout. Il aurait pu, mais non. Bref, vous l'avez compris, la République a encore une fois été frappée en plein cœur par des gens qui n'ont toujours pas bien pigé le principe de la laïcité.
Polémique de la semaine, suite avec Charline Vanhoenacker. Polémique politique ou question de mode?
Depuis que Karl Lagerfeld a disparu, on ne sait plus comment s'habiller, voilà tout. D'ailleurs, hier, le seul mec qui a gardé son sang-froid, c'est le community manager de Decathlon. C'est tellement devenu une star des réseaux, on sait qu'il s'appelle Yann. Là, en 24 heures, son métier a changé. On lui dit « Hey Yann, t'as répondu à Agnès Buzyn ?»« Non, je peux pas, je suis en ligne avec Barcelone, il y a Manuel Valls qui est en train de gueuler. » Pauvre Yann de Decathlon, je veux même pas savoir la suite quand ils vont lui annoncer la commercialisation de la Kippa Frisbee. Il va vouloir démissionner. Donc en fait, si j'ai bien compris la polémique, la place d'une jeune musulmane, c'est dans la cuisine à préparer le couscous, pas de sortir courir dehors. Alors que la plupart des gens qui se plaignent sont ceux qui voudraient voir les étrangers rentrer dans leur pays en courant. J'ai envie de leur dire, laissez-les au moins s'équiper dans ce cas-là. Conclusion, on vit dans un pays où un hijab proposé par Decathlon choque davantage que leurs tentes qui s'accumulent dans les rues de Paris.
Cette semaine aussi, pour beaucoup, c'était les vacances d'hiver. Écoutez Tanguy Passureau, il explique pourquoi la lutte des classes continue même dans les stations de ski.
Tout est chamboulé. Dans l'Ouest parisien, il y a plein de places pour se garer. Mais les soucis existent toujours. Ils se sont seulement déplacés vers ces ghettos que sont Val d'Isère, Courchevel, Méribel, Megève. Et qui parle des problèmes que rencontrent les ultra-riches ? Personne. Moi, je pense à vous. Oui, vous, peuple opprimé, jamais filmé par BFM TV parce que vous n'êtes pas sur les ronds-points, mais autour des ronds-points, en Hummer. Je suis votre messager. Le coût du pass remonté mécanique et forfait ski 7 jours, plus 40% en un an, on n'en parle pas. La prise en charge psychologique quand on a écrasé une marmotte sur la route et que juste avant de passer sous les pneus, on a l'impression qu'elle nous faisait coucou. On n'en parle pas. Stop aux gilets jaunes, vive les combis bleus et rouges, révolution.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. À suivre, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Impossible d'y échapper, Gilles et Natacha. C'était la polémique de la semaine. Partie de Twitter pour devenir une affaire d'État, selon le Washington Post. En tout cas, une tempête politique autour d'un hijab de running de marque Decathlon. Écoutez quelques-unes des réactions contre ce vêtement de course.
Tout ce qui peut enfermer la femme, fût-ce au nom d'une ritualité qui n'est pas la valeur profonde d'une religion, ça je n'ai pas envie de le partager.
Personnellement, je n'ai pas envie qu'on favorise la différenciation entre les femmes et les hommes.
Si on cède à cet islamisme radical qui pourrit la France, qui déconsidère les Français musulmans qui pratiquent leur foi tranquillement et qui ne veulent pas être l'otage des salafistes, on est foutu.
Vous aurez reconnu les voix du président du Sénat, Gérard Larcher, de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et du président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Un mélodrame, un psychodrame, une histoire très française, Natacha.
Oui, très française dans le sens où nous avons une conception de l'espace public qui est très spécifique. Et quand le Washington Post écrit sur ce sujet-là, c'est comme à chaque fois pour se faire un plaisir d'expliquer que nous sommes islamophobes, ringards, racistes. Non, il s'agit d'une différence culturelle et j'allais dire d'une bataille culturelle entre la vision anglo-saxonne de l'organisation de l'espace public et la vision française. Alors dans cette vision française, rappelons-le tout de même, on est libre de porter le voile dans l'espace public.
Oui. Hein,
c'est la base. Point. Voilà. Donc ce n'est pas une question juridique.
Le politique justement demande le retrait d'un article qui n'est pas interdit par la loi.
Oui. Parce que c'est une question de mœurs.
On va en parler justement, Gilles.
Polémique de 24 heures, comme on en a beaucoup, mais sur un sujet récurrent. Je crois qu'il y a plusieurs enseignements. D'abord, il y a un enseignement politique, c'est que ce sujet du voile qui est venu traverser chacune des familles politiques est en train de traverser de manière extrêmement violente la majorité elle-même, le groupe parlementaire, le gouvernement, faute depuis 2 ans d'avoir su élaborer une doctrine et un discours notamment du président de la République. Deuxième enseignement, d'un point de vue économique, quand on regarde la société Decathlon, il y a, pour elle comme pour toutes les sociétés, une bataille entre ce que les anglo-saxons appellent les stakeholders et les shareholders.
C'est-à-dire
les actionnaires, les stakeholders, et les parties prenantes, notamment les consommateurs, les shareholders. Et on assiste à un rééquilibrage, qui est un phénomène relativement nouveau. Depuis quelques années, les actionnaires ont un peu moins de poids et les consommateurs, les clients ont du poids, on le voit. Et puis, dernier enseignement là qui concerne la société française, c'est une bonne illustration de quelque chose qui ne va pas. La violence des débats, on part de violences numériques et on risque d'arriver à des violences physiques. L'hypocrisie de ce débat, on peut marcher dans la rue avec un hijab, on ne peut pas courir. On peut acheter sur Internet, mais on ne peut pas acheter dans un magasin. Et enfin, la récurrence de ce débat. Ça fait 30 ans que l'on a le même débat sur des sujets différents, mais en réalité qui est le même débat.
Et tout ça, vous trouvez absurde ?
Et tout ça, je termine, il relève d'une confusion entre le droit et la morale, entre le droit, c'est-à-dire qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, et Natacha l'a dit, en France, on a le droit de porter le voile dès lors que ce n'est pas un voile intégral et qu'on n'est pas à l'école dans l'espace public, et là, ce qui relève de la morale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et il faut sortir de cette confusion-là, savoir quel est le registre du débat? Est-ce que c'est un débat juridique ou est-ce que c'est un débat moral, philosophique, politique?
Alors, je pense que le premier point est en effet que, donc non, bien sûr, ce n'est pas un débat juridique. En revanche, le débat relevant, non pas de la morale, mais des mœurs, me semble tout à fait légitime.
Quelle est la différence, Natacha?
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal. Il s'agit de définir ce qui relève de notre pacte social, c'est-à-dire ce qui relève de la façon dont, en France, on organise l'espace public et on pense les rapports entre les individus, les rapports entre les hommes et les femmes.
Mais vous avez entendu les responsables politiques. Pour eux, c'est bien ou mal. En l'occurrence, le président du Sénat, il dit que c'est une conception de la femme qu'il ne partage pas. Agnès Buzyn, pareil.
Il a le droit de dire que c'est une conception de la femme qu'il ne partage pas. Et pour ma part, c'est aussi une conception des rapports hommes-femmes que je ne partage pas. Parce que on peut tout de même dire, sans être taxé d'islamophobie, que quelle que soit la façon dont on prend le problème, le fait d'imaginer qu'il y a un devoir pour une femme de se couvrir les cheveux, même si c'est elle-même qui se fixe ce devoir, c'est une façon d'envoyer le message qu'elle est responsable du désir qu'elle suscite chez les hommes et que ce désir pose problème et que la seule solution à ce problème est pour la femme de se cacher les cheveux. Donc ça, c'est une vision des rapports hommes-femmes qui ne colle pas avec ce que nous avons développé au fur et à mesure des siècles dans notre façon de penser les rapports
hommes-femmes. Comme on veut.
Alors, il y a bien sûr la liberté individuelle. Et donc la question, c'est la rencontre entre cette liberté individuelle et une façon d'organiser la société, de vivre ensemble, sans laquelle il n'y a pas de société apaisée.
Gilles.
Alors, d'abord, c'est très important ce que dit Natacha, c'est-à-dire de partir de l'idée que ce n'est pas un débat juridique. Ce qui veut dire donc accepter que on est arrivé à un équilibre. À un équilibre avec l'interdiction du voile à l'école.
Vous trouvez qu'on est arrivé à un équilibre, la polémique de cette semaine?
Non, qu'on est arrivé à un équilibre juridique. Et que donc, ce n'est pas la question. Je pense que ça décrispera beaucoup le débat. Après, reste le débat, disons, d'ordre philosophique dans lequel il y a une tension. Entre, d'un côté, la liberté de conscience, qui est garantie, la liberté de croire ou de ne pas croire, et si l'on croit, de porter, le cas échéant, un voile, et donc avec la nécessité de respecter les femmes qui portent un voile. Et d'un autre côté, la conception, pour le coup que je partage, du rapport entre les femmes et les hommes, dans lesquels il ne faut pas être dupe de ce que le voile est, pour un certain nombre d'islamistes radicaux, un levier pour imposer une certaine vision de la femme. Et donc là, la possibilité d'un combat, mais qui est un combat politique sur le symbole que représente le voile.
Natacha.
Et c'est pour ça que ce sur quoi il faut se battre, c'est avant tout le vocabulaire. Par exemple, ce qui me dérange profondément dans cette polémique, c'est d'entendre certains dire « vous voulez donc interdire aux musulmanes de faire du sport ». Non, ce ne sont pas les musulmanes, ce sont certaines musulmanes. Et rien que ce combat pour la précision est essentiel, c'est-à-dire que on peut parfaitement être musulmane, vivre sa foi, sans porter le voile. Il faut le rappeler à chaque fois. De même, parler
et le porter. Et vouloir faire du sport.
Oui, bien entendu. Mais de même, et on peut en effet cela, mais on peut aussi, dans ces cas-là, avoir conscience qu'on envoie un message qui est celui dont nous parlions à l'instant avec Gilles sur les rapports hommes-femmes. Deuxième chose, quand on parle de mode pudique, moi, pardon, mais je refuse l'usage de ce terme et je le trouve profondément pervers. Or, il est en train d'être adopté dans les médias par facilité, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment appeler ça. Donc, on reprend les mots
des
idéologues
exemple,
qui veulent mettre en avant que. Mais c'est un mot idéologique qui consiste à dire qu'en gros, si on ne se couvre pas, on n'est pas pudique. Pardon, c'est un combat culturel essentiel pour les femmes. Je ne pense pas être impudique quand je montre mes cheveux. Et aucune femme ne l'est. Non, mais ça vous fait rire.
Parce que je pensais à vos cheveux.
Oui, qu'ils sont... Bon, je comprends qu'ils ne suscitent pas forcément un désir extraordinaire. Peu importe. Il y a d'autres femmes qui ont des chevelures splendides et elles ont le droit de le montrer sans être accusées d'être impudiques. Non, mais vous voyez, c'est un débat de fond que nous devons mener. En effet, il n'a rien de juridique et il ne faut pas toucher à la loi. Il faut débattre entre citoyens, mais tenir pied à pied sur cette ligne, à savoir que ce n'est pas islamophobe de rappeler que ce morceau de tissu n'est pas anodin et qu'il porte un message qui est un message philosophique majeur.
Encore un mot, Gilles.
Oui, juste pour terminer, reste une question. Est-ce que pour une femme musulmane, pratiquantes qui portent le hijab. Est-ce que on peut considérer que c'est un progrès qu'elles viennent malgré tout dans une salle de sport au milieu de gens qui sont très différents? Et je dis ça pour le coup d'expérience, puisque moi j'habite dans une banlieue populaire dans laquelle il y a un pourcentage considérable de musulmans. Dans la salle de sport dans laquelle je vais, eh bien, il y a des femmes qui viennent courir et faire des appareils voilés. Et je, alors même que politiquement, j'ai dit quelle était ma position, je pense que ça peut malgré tout être un problème, un progrès, qu'elle soit là, plutôt qu'elle reste chez elle.
Pardon, mais j'ai tendance à penser qu'une femme musulmane pratiquante qui choisit de porter cela pour faire du sport, de celle qui ne reste pas enfermée chez elle. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait là le moindre progrès en quoi que ce soit.
Bon, c'est une autre histoire. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport, Gilles ?
Alors, là, je cours.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Écoutez, on perd du temps avec ces histoires de négociations pour aboutir à quoi ? Le PS veut sauver sa peau. Il y en a qui se disent on se met au milieu, comme ça on a peut-être une chance de ramasser la mise. Certains qui posent comme condition ça peut pas être cette tête de liste, ou c'est à condition que ce soit ma tête de liste, tout ça, c'est fini. J'ai proposé une votation citoyenne. Faut poser la question aux partis qui n'ont pas voulu.
Vous avez reconnu la voix de Benoît Hamon, c'était mardi dernier lors de la présentation des 30 premiers noms de la liste Génération pour les élections européenne. Vous avez voulu, Gilles, revenir sur cette gauche entre dispersion et disparition. Pourquoi ?
On a publié au début de cette semaine la première grosse enquête à partir d'un échantillon de 10 000 Français.
C'était dans Le Monde, grande enquête menée par Ipsos, voilà, de Cevipof et la Fondation Jean Jaurès sur les élections européennes.
De disparition, peut-être de la gauche. Donc je voulais revenir sur cette question. Je le fais évidemment avec mes convictions, c'est-à-dire la conviction que la démocratie française a besoin d'avoir une gauche socialiste, écologiste qui soit sur pied. La conviction que diviser la gauche a une visibilité qui est proche de zéro et une représentation qui peut être égale à zéro, parce que quand on est en dessous de 5%, quand on est en dessous de 5%, c'est zéro député. Et donc européen. Aussi bien le Parti Socialiste que Génération peuvent se retrouver sans député, sans SANS et pas CENT, après ces élections. Bon, mais je le faisais avec, j'ai fait cette étude avec une interrogation qui était: est-ce que les électorats de Génération, de Benoît Hamon, du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que ce sont des électorats qui sont proches ou est-ce que ce sont des électorats qui sont éloignés? En d'autres termes, le pari qui était celui de Raphaël Glucksmann, qui a dit il faut les rassembler et il est possible de les rassembler parce qu'ils sont proches, est-ce que cette analyse était juste ou est-ce que ce que dit Benoît Hamon, ça suffit, chacun a son offre électorale? Qui a raison?
Qui a raison?
Eh bien, qui a raison? C'est
Raphaël.
Eh bien, c'est
notre
Raphaël.
Ami.
Et oui, c'est Raphaël, et c'est pas Raphaël parce que c'est notre ami, c'est Raphaël parce que j'ai été frappé, j'ai été saisi de la proximité entre ces trois électorats. Proximité sociologique, ce sont des électorats qui sont plus féminins que la moyenne, plus diplômés que la moyenne, davantage dans le secteur public, davantage de professions intermédiaires. Ce sont des électorats dans lesquels il y a une proximité européenne incroyablement forte, c'est-à-dire que ce sont des électorats qui sont pro-européens, mais qui ne sont pas, comme l'électorat d'Emmanuel Macron, pour l'Europe telle qu'elle est, mais pour une Europe différente. Ce sont des électorats qui ont une forte proximité politique. On le voit dans le rapport à Emmanuel Macron, ils sont dans le même niveau d'insatisfaction, 10% en gros, qui sont satisfaits du bilan du président de la République. Et enfin, dans une proximité idéologique, quand on les demande où est-ce que vous vous positionnez sur une échelle gauche-droite, eh bien, ils se situent à peu près les trois au même endroit, sur l'espace de cette gauche.
Et donc les conclusions de cette enquête que vous avez menée vous désolent ?
Non, pas du tout.
L'homme de gauche est désolé.
Alors, elle me désole parce que il serait possible d'additionner. On se demande toujours quand on additionne des forces, quand on rassemble des forces, est-ce que 1 plus 1 plus 1, est-ce que ça fait 3 ? Est-ce que ça fait 2 ? Est-ce que ça fait 4 ? Eh bien, une dynamique est possible, ça ne veut pas du tout dire, on le voit semaine après semaine, que cette dynamique va s'enclencher.
Natacha ?
Non, c'est bien le problème, parce qu'en effet, il apparaît à n'importe quel observateur, même sans y mettre la précision qui est la vôtre, Gilles, qu'en effet, a priori, Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette idéologiquement entre toutes ces formations. Bien entendu, d'autant plus que l'écologie est devenue la principale matrice d'une pensée du changement, d'une pensée révolutionnaire, et que donc tout l'ensemble de la gauche est en train de se reconstruire avec l'écologie au cœur de son dispositif idéologique. Enfin, de tenter de se reconstruire idéologiquement, hein, pas pour l'instant, pas électoralement. Mais je veux dire, l'écologie est au cœur de la pensée politique de gauche actuellement. Et c'est tout à fait légitime. Hein. Tout dépend encore une fois comment on le fait. Sauf que ça pose un problème. C'est que du coup, Yannick Jadot et Europe Écologie Les Verts s'imaginent qu'ils peuvent tirer la couverture à eux puisqu'ils sont justement censés être au cœur de cela. Ils oublient que ça fait très très longtemps qu'ils ne sont plus dans l'imaginaire des citoyens associés uniquement à l'écologie et qu'ils sont plutôt associés à cette idée d'un parti qui a accepté des compromissions pour gouverner sous François Hollande, qui n'a pas porter une dynamique.
Mais vous parlez avec le sourire, ça ne vous désole pas, vous, en l'occurrence, ce risque de disparition, au moins dans les urnes de la gauche française.
Je vais vous dire, je dirige un journal, Marianne, qui depuis 20 ans, puisque Marianne existe depuis 1997, explique que il faut en finir et qu'il faut que le Parti Socialiste explose. Donc, j'ai tendance à penser que ça fait partie des solutions et qu'il faut une recomposition politique. Là, mais c'est justement, ça y est.
Oui, vous n'êtes pas les responsables.
On en est arrivé là et nous n'y sommes pour rien. Ils ont réussi ça tout seuls. Et quand je vois Benoît Hamon qui propose sa votation inclusive pour une irruption citoyenne, je me dis qu'on est encore très très loin de trouver la solution, rien que le vocabulaire est significatif.
Gilles. Bon, je connais trop la politique pour ne pas savoir quelles conditions chacun peut poser en sachant pertinemment qu'elle ne peut pas être remplie et que le rassemblement sera impossible. On en est là. Tout ça, au fond, est une question d'état d'esprit. Il y a 20 ans ou 30 ans, lorsque je commençais ma carrière professionnelle, il y avait au Parti Socialiste les Jospinistes et les Fabusiens. Ça ressemble à une période très ancienne. Et on disait, quelle est la différence entre les Jospinistes et les Fabusiens? Eh bien, quand vous êtes dans une réunion, les Jospinistes regardent qui est là et se demandent qui ne devrait pas y être. Et les Fabusiens, quand il y a une réunion, ils regardent qui est là et ils disent qui on a oublié d'inviter. C'est exactement cela, c'est une question d'état d'esprit. Est-ce qu'on est dans une démarche d'exclusion? Est-ce qu'on est dans une démarche de rassemblement? C'est ça la question qui est posée aux différentes composantes de la gauche.
Mais l'enquête que vous avez menée, est-ce qu'elle fait l'autopsie de la gauche française ou est-ce qu'elle décrit une gauche convalescente?
Elle fait pas l'autopsie dans la mesure où on voit que si on additionne, et on voit que ça a du sens de le faire, les trois principales forces, disons, génération Europe Écologie Verts et le Parti Socialiste, on est entre 18 et 20%. 18 et 20% dans l'éclatement politique que l'on connaît, c'est une réelle force. 5 plus 5 plus 8, ce n'est rien.
Natacha. Alors, à ceci près que ce n'est pas la gauche. C'est une des gauches. C'est cette gauche qu'on peut dire...
Parce qu'on ne compte pas la France Insoumise, par exemple.
Mais oui. Or, une recomposition à gauche doit justement compter avec tout ce prisme et compter avec ceux qui ne sont pas présents sur le prisme. Par exemple, il est assez frappant de constater qu'actuellement, le courant qui pouvait être incarné par Arnaud Montebourg, c'est-à-dire une gauche étatique pour la démondialisation, a totalement disparu.
Mais Arnaud Montebourg lui-même a disparu de la scène politique.
Oui,
il fait du miel.
Oui, bien sûr, mais il n'est pas le seul à pouvoir porter cela, mais c'est très intéressant politiquement de se dire que ce courant-là a disparu. Or, on le voit actuellement avec KLM, avec Ford, il y aurait un sujet là-dessus. Et à côté de ça, cette gauche qui tente de se rassembler, elle est toujours confrontée à la question de savoir quel est son rapport réel à l'Europe. C'est-à-dire que vous disiez, Gilles, avec raison, qu'en effet, elle n'a pas le rapport à l'acceptation de l'Europe telle qu'elle est, qu'incarne le macronisme. En revanche, elle n'a toujours pas résolu la question de savoir jusqu'où elle était prête à aller pour changer l'Europe. Et je pense que c'est le cœur du sujet.
Un mot, Gilles, et on va passer justement à une question européenne.
Juste un mot, ce rapport à l'Europe est précisément la raison pour laquelle le rassemblement entre les trois forces que j'évoquais, Europe Écologie Les Verts, Génération et le PS, a du sens, et aller au-delà, et notamment inclure toute la gauche et la France Insoumise, n'en aurait pas, parce que les sympathisants, les électeurs de la France Insoumise sont beaucoup moins pro-européens que les autres.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
L'accord de retrait ne peut être renégocié. Si les Britanniques ont besoin de davantage de temps, Nous pourrons examiner une demande d'extension si elle est justifiée par de nouveaux choix des Britanniques. Mais nous ne pourrons en aucun cas accepter une extension sans une perspective claire sur l'objectif poursuivi.
Nous sommes à un mois jour pour jour avant la date prévue pour le Brexit et c'était donc mercredi. Emmanuel Macron s'était dit prêt à examiner une demande de report du Brexit de la part de Londres. Est-ce qu'il faut laisser plus de temps aux Britanniques pour préparer leur sortie? Quand vous entendez le président de la République, est-ce que vous entendez un discours de conciliation ou au contraire, est-ce que vous entendez la menace d'une punition, Natacha?
C'était pas très très conciliant comme façon de présenter les choses là et je ne pense pas que c'était le but. Je pense qu'il s'agit d'envoyer le message selon lequel les Britanniques doivent aller au bout de leur logique, enfin ou se soumettre. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est plutôt l'évolution des points de vue britanniques. C'est-à-dire, on a là depuis le début, j'allais dire, quand même une certaine leçon de démocratie. Dans le sens où Theresa May, qui était opposée au Brexit, fait tout son possible pour arracher un accord qui soit le meilleur possible pour son peuple. Et dans un certain sens, on a là un exemple d'acceptation de ce qui a été voté. C'est d'ailleurs pour ça que, après, la question de savoir
comment
si...
Comment ça
Eh bien, depuis deux ans, finalement, les Britanniques ont plus ou moins, chez une majorité de leurs dirigeants, acceptaient l'idée que le peuple s'était prononcé. À ceci près, donc, qu'on voit réapparaître cette idée d'un second référendum. Idée portée par Tony Blair, par la frange qu'on va dire, la frange ce qu'on appelait la nouvelle gauche.
Par Jeremy Corbyn.
Alors Jeremy Corbyn, c'est
un peu plus compliqué, mais il a ouvert
plus compliqué. Je ne suis pas certaine que Jeremy Corbyn soit ravi à l'idée qu'on abandonne le Brexit. Son intérêt, et c'était cela qu'il jouait jusqu'à présent, c'était au contraire qu'il y ait le Brexit et qu'il arrive ensuite pour porter la politique qui est la sienne et qui n'est pas forcément compatible avec le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
Gilles.
L'impression qu'on peut avoir quand on regarde l'actualité depuis une semaine, c'est que ça commence à bouger. Que ça commence à bouger des deux côtés, c'est-à-dire que ça commence à bouger du côté des travaillistes comme ça commence à bouger du côté des conservateurs et les uns et les autres sous la pression interne de députés qui n'acceptent pas la position de leur leader. Ça bouge parce que pour la première fois, Jeremy Corbyn dit peut-être un deuxième référendum et ça bouge parce que Theresa May, pour la première fois, dit peut-être un report. La question, c'est est-ce que ça bouge en apparence ou est-ce que ça peut bouger réellement? Et c'est là où on peut être plus inquiet. La perspective d'un deuxième référendum, malgré tout, est relativement peu crédible. Et l'utilité d'un report, on l'a vu dans le son que vous venez de passer d'Emmanuel Macron, l'utilité d'un report est soumise à une question. Pourquoi faire? Il ne pourra de toute manière être que court, parce que entre temps il y a les élections au Parlement européen et donc il faut qu'on soit fixé. Parce que
s'il y a un report, c'est ce que disait Jean-Louis Bourlange à l'antenne de France Inter, est-ce qu'il faudra du coup que les Britanniques votent pour les élections européennes alors qu'ils quittent l'Union? Enfin, c'est vrai que ça crée des situations folles et absurdes.
Ça ne peut être que court et il faut savoir pourquoi faire. On ne sait toujours pas ce que les Britanniques veulent. On est à un mois. Le malheur, c'est que...
Donc il faut les punir.
Il ne faut pas les punir. Le malheur est que les deux leaders britanniques, Theresa May et Jeremy Corbyn, sont sans doute les pires que le Royaume-Uni ait connus depuis longtemps. Leçon de démocratie, disait Natacha. Le problème est que les Britanniques continuent de croire qu'ils sont une île et que la Chambre des communes est le centre du monde. Et donc, il y a des débats picrocolins chaque jour sur des amendements et des sous-amendements sans regarder ce qui se passe par ailleurs. Et pendant ce temps-là, l'horloge tourne et l'hypothèse d'un no deal est de plus en plus crédible.
Natacha.
Gardons-nous des jugements sur les pires dirigeants qu'aient pu avoir les Britanniques. Eux-mêmes, parce qu'ils sont justement profondément démocrates, ont jugé le bilan, par exemple, de Tony Blair, en particulier lors des interventions de leur pays au Proche-Orient, ce que nous n'avons pas fait. Donc, leçon de démocratie de la part des Britanniques, la capacité à mettre en cause des gens qui ont eu une responsabilité absolument tragique dans l'état du monde aujourd'hui. Donc, les dirigeants britanniques d'aujourd'hui sont peut-être pas complètement les pires.
Le grand face-à-face continue maintenant avec le débat.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Comment écrire une histoire qui n'est pas terminée? Comment désigner les gagnants, les perdants aussi d'une lutte avant d'en connaître la fin? Notre invité ce samedi publie La victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes aux éditions La Découverte. Le président et fondateur de Mediapart est avec nous. Bonjour Edoui Plenel.
Bonjour.
Et bienvenue Natacha et Gilles ont lu votre livre et ils vont en débattre avec vous. Un mot quand même pour expliquer ce titre, La victoire des vaincus. Quand bien même leur victoire ne serait qu'éphémère, écrivez-vous, les Gilets jaunes auront malgré tout gagné en imposant leur agenda au débat public, en redevenant les acteurs de leur propre histoire. Vous publiez ce livre à chaud. D'autres écrivent l'inverse, Edoui Plenel. D'autres racontent déjà l'histoire d'un président de la République, Emmanuel Macron, qui aurait repris la main après des mois de crise. Quel est votre argument dominateur pour dire que les vaincus ont remporté la victoire?
C'est le souci de l'événement. Je pense que face à l'inattendu, à l'imprévu, à l'inconnu, justement, il ne faut pas, nous, journalistes, prédire l'avenir. Et ce livre prend la précaution de dire que beaucoup d'hypothèses sont ouvertes. Je dis même, dès le début, que c'est la lutte qui déterminera l'avenir. C'est la seule chose que l'on peut prédire, la lutte. Alors, Monsieur Macron et ceux qui l'entourent luttent évidemment pour échapper au discrédit. Mais ce qui m'a importé surtout, c'est de réhabiliter ce mouvement. Il a été d'emblée déprécié, méprisé, calomnié, humilié, et il l'est toujours, par les voix des possédants. Qui veulent que ce peuple non seulement n'ait pas la parole, mais qu'il soit laid, qu'il soit silencieux, qu'il soit méprisable.
Mais l'essentiel, c'est que ce mouvement a été pendant longtemps soutenu par une très large majorité de la population française.
Mais il l'est toujours et il n'est pas fini ce mouvement, il est en cours. Vous savez, il va même être rejoint. Je pense au fond, c'est ça l'idée de ce livre, c'est une phrase qui me tient à cœur de Walter Benjamin. La catastrophe, c'est que les choses continuent comme avant. Et qu'elle continue comme avant, et nous savons que nous allons dans le mur, sinon dans le gouffre. Et Walter Benjamin, à un autre moment, dit, Marx disait que les révolutions sont la locomotive de l'histoire. Il dit non, peut-être que les révolutions sont au contraire ce surgissement inattendu qu'aucune avant-garde ne contrôle. C'est le moment où le peuple vient là et il tire sur le frein. Il tire le signal d'alarme pour que les freins d'urgence se serrent. Au fond, pour que ce train d'enfer s'arrête. Et pour moi, les Gilets jaunes, comme les jeunes sur le climat, sont ceux-là. Donc vous avez les vendredis et les samedis au mois de mars. Vous aurez le vendredi ceux qui disent « je ne vais pas à l'école, je vais pas à l'école parce que
pour le climat.
La fin du monde est là ». Et le samedi, il y a ceux qui diront « les fins du mois sont toujours là et on ne va pas opposer l'un et l'autre, fin du mois, fin du monde, même combat ». Donc voilà, c'est une contribution à ce qui nous agite tous et je crois qu'il faut espérer que beaucoup de gens tirent les freins d'urgence.
Et on va ouvrir le débat justement, Natacha.
Ce qui est intéressant, vous avez raison, c'est en effet le surgissement et l'inattendu. C'est-à-dire que ce mouvement a été comme un coup de tonnerre et a été très difficilement appréhendé par toute une partie des observateurs qui ne voulaient pas le voir tel qu'il était, c'est-à-dire un mouvement venu du tréfonds du pays. En revanche...
Et c'est suffisamment rare d'ailleurs de vous trouver d'accord, Natacha et Edoui Plenel, sur l'analyse qu'on peut faire du mouvement des Gilets jaunes.
Sur ce genre de choses et sur la question, en effet...
Le sourire de Gilles dit que j'ai raison.
Non, sur tout ce qui peut relever d'une analyse, d'une forme de lutte des classes, je pense qu'il peut y avoir en effet des visions commune. Simplement, il me semble que ce qu'il y avait d'intéressant au début de ce surgissement, c'est le fait justement qu'on a vu apparaître des franges de la population française qui d'habitude n'apparaissent pas et qui d'habitude ne sont pas dans ce genre de mouvement. Je pense à tout ce qui est les artisans, les petits commerçants, les petits patrons de PME qui, eux, depuis, ont quitté ce mouvement. Or, pour qu'un mouvement puisse aboutir à une véritable révolution, en fait, il faut ce maintien d'une forme de convergence des luttes, cet agrégat de gens qui ont habituellement en apparence des intérêts divergents et qui tout à coup s'aperçoivent qu'en fait leurs intérêts sont convergents. Là, ça n'est plus le cas aujourd'hui dans ce mouvement des Gilets jaunes.
Édouard Pénel.
Moi, je ne sais pas. Je pense que la réalité sur le terrain est beaucoup plus diverse. Et ce que je vois surtout, c'est que ce mouvement s'est unifié et que les gens viennent ou non aux manifestations du samedi, qu'ils se retrouvent ou non dans des assemblées comme celle où il y avait 75 délégations à Commercy quand même, avec un appel très important. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce mouvement qui est parti de la question de l'injustice fiscale, comme je dis, c'est une bataille de l'égalité, pour l'égalité, pour une égalité véritable, s'est unifié, et pour moi c'est un événement inouï, inouï, qu'on n'avait jamais vu, sauf un petit peu pendant les événements de 68, mais à la marge finalement. Il s'est unifié sur la question démocratique. C'est la première fois qu'un mouvement, en effet, du peuple profond, de travailleurs pauvres pour l'essentiel, avec notamment les femmes, notamment les retraités, s'est emparé d'une question que l'on croyait une question de spécialistes, la question constitutionnelle, la question, on disait mais finalement jamais les Français ne se déshabitueront de l'élection du président au suffrage universel, etc. Et tout d'un coup on les voit parler de quoi? De ça. Parler de comment sortir de ce qui est le véritable échec d'Emmanuel Macron, il faut le dire, par rapport à sa promesse. C'est qu'il a reconfisqué le pouvoir. Il a été élu sur une promesse démocratique et au fond, il est le pire du vieux monde. Il a confisqué la volonté de tous au nom du pouvoir d'un seul,
alors,
au point d'être
plus
de plus en plus une caricature monarchique.
Gilles, est-ce que vous partagez l'idée qu'il y a une victoire des vaincus?
Ils ont réussi à imposer un agenda. On va voir pendant combien de temps. Ils ont réussi, en tout état de cause, et ça c'est une victoire, à ce que ceux qui étaient invisibles redeviennent visibles. Ce qui me frappe, à la fois en vous entendant et en vous ayant lu attentivement, c'est que j'ai une forme de proximité naturelle. La gauche électorale, on a vu dans quel état elle est, mais il y a une gauche culturelle qui a sans doute des réflexes communs. Et donc, sur la crainte que la question de l'égalité vienne se prendre ça, être prise, la place soit prise par la question de l'identité, sur la critique des excès du présidentialisme, sur la nécessité d'une démocratie avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs, même sur les gilets jaunes, ce que vous dites, il y a des virtualités positives dans ce mouvement et il faut essayer de le pousser dans ce sens-là, sur le fait qu'il y a eu une forme de mépris d'un certain nombre de possédants qui, face à l'irruption de cette France-là, il y a des zones de convergence qui sont très fortes. Et en même temps, il y a des divergences ou des différences assez irréductibles qui tiennent, comme vous dites, votre parti pris, c'est les réhabiliter. Et ce faisant, il y a une forme d'esprit de système qui va jusqu'à occulter une partie de la réalité, et c'est ça qui est gênant. Par rapport à la violence, vous avez une position qui est souvent ambiguë, parfois même complaisante, ne voyant qu'une violence qu'il faut dénoncer, qu'on a fait ici à de nombreuses reprises, qui est la violence policière, mais justifiant toujours disant qu'elle est toujours la violence des gilets jaunes et la conséquence de la violence policière, allant même jusqu'à minimiser l'intrusion dans un bâtiment public, dans le ministère
de Benjamin Griveaux,
et donc on peut dire la même chose d'ailleurs sur le complotisme, sur l'antisémitisme. Et donc pour moi, le vrai respect qu'on doit aux gilets jaunes, c'est d'être capable à la fois de soutenir le combat social et de condamner la violence, de soutenir le combat démocratique et de dénoncer le complotisme.
Et Louis Pénel.
Vous ne m'avez pas lu si attentivement.
Ah, si.
Je parle sur le point sur le complotisme et l'antisémitisme, parce que je crois que justement, et c'était avant la scandaleuse agression antisémite contre Alain Finkielkraut, que dans ce livre, je suis très ferme là-dessus et très ferme sur le fait que la bataille de l'égalité des gilets jaunes suppose que les gilets jaunes eux-mêmes soient d'une totale intransigeance par rapport à justement leur ennemi, c'est-à-dire ceux qui hiérarchisent au nom de l'origine, au nom de l'apparence, au nom de la croyance. En revanche, je vais vous répondre sur la violence qui est au fond le cœur du livre. Le cœur du livre, La victoire des vaincus, reprend un titre que j'avais donné à une introduction d'un livre que j'avais fait sur le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, du mouvement social, Le Métron, qu'à la Fondation Jean Jaurès, je suppose, vous pratiquez de près. Et c'est au fond cette idée de rappeler, car je crois que c'est ça le cœur de notre 21e siècle, de rappeler qu'il faut peut-être sortir du 20e siècle, vraiment, de sa culture des partis propriétaires, des avant-gardes propriétaires, des sachants et des experts propriétaires, et retrouver la vitalité de ce qui fut notre vraie histoire républicaine, des conquêtes du 19e, parfois trahies, ce que j'appelle, ce n'est pas de moi, c'était leur formule, les démosocs, les républicains démocratiques et sociaux, les marianeux, ceux qui ont porté tous nos idéaux de l'égalité. Alors, que dire ? Eh bien, dire tout simplement que, bien sûr que les violences sont toujours regrettables. Bien sûr qu'il vaudrait mieux que tout ça puisse se faire pacifiquement. Mais les libertés dont nous profitons aujourd'hui, les droits fondamentaux dont nous profitons aujourd'hui, les lois fondamentales dont nous profitons aujourd'hui, ont toujours été aussi le fruit, parce que les possédants ne voulaient pas lâcher, parce qu'ils ne voulaient pas céder sur leurs privilèges, parce qu'ils ne voulaient pas donner de droits de bataille, et de batailles dans lesquelles, en
vous
effet...
Vous citez Gandhi,
en
vous
effet,
citez Martin Luther King
je
en
cite,
disant « Oui, on peut
cite,
citer ces belles
cite,
figures,
je cite
mais
de
au fond... »
Donald R. Camara... C'est les trois violences, hein, dont, et Donald R.
Un
Camara,
évêque catholique brésilien.
Bien sûr, et qui rappelle, c'est-à-dire cette,
qui
cette violence
dans la spirale de la violence.
Et moi, je ne peux pas laisser dire qu'une sorte d'équilibre, quand même, ce que vous avez tous sous les yeux, et qui fait la honte de notre pays actuellement dans le monde. Nous avons la dérive autoritaire en Europe la plus grave. Elle n'est pas en Hongrie, elle n'est pas en Italie, elle n'est pas en Espagne. Nous avons la police qui a un type d'armement qu'aucune des grandes démocraties européennes ne pratique.
Juste pour que tout le monde comprenne, la dérive autoritaire la plus grave en Europe en ce moment, c'est en France.
Violence policière, bien sûr, mais vous savez qu'avec David Dufresne, nous en tenons à Mediapart la comptabilité régulière. Oui. Jamais depuis la guerre d'Algérie, qui était quand même une guerre, il n'y a eu autant de blessés graves. Ce que je dis juste, c'est que là, l'événement que nous avons sous les yeux.
Non, mais écoutez, c'est quand même violent de vous entendre dire que le pays qui a la dérive autoritaire
mais
la plus
c'est
forte
pas moi
en
qui
Europe,
le dis,
c'est pas la Hongrie.
Mais excusez-moi, c'est le commissaire européen des droits de l'homme, c'était cette semaine, vous l'avez lu dans les nouvelles quand même.
Je pense avec vous qu'il y a un autoritarisme macronien qui est assez caractéristique, mais je trouve qu'il faut tout de même garder une certaine forme de nuance, et surtout, je suis assez intéressée par la façon dont vous avez répondu à Gilles Finkelstein, parce que, et c'est à mon avis assez significatif. Vous avez répondu, il faut que les Gilets jaunes soient intransigeants vis-à-vis de leurs ennemis, ceux qui mettent en avant l'identité, etc. Or, je crains qu'une part des Gilets jaunes qui portent ce que vous essayez de soutenir, et qui en effet est une demande de démocratie absolument fondamentale, comme on n'en avait pas vu depuis extrêmement longtemps, un réveil du peuple, eh bien, les mêmes, hélas, ont, pour certains, des réflexes qui sont des réflexes identitaires, qui sont des réflexes dont on a vu qu'ils avaient pu aller vers une remise en cause de tout simplement la possibilité de laisser s'exprimer des options divergentes, c'est-à-dire une forme de violence, une forme de rejet de ce qui fait la base du débat démocratique. Et je pense que quand on fait abstraction de ça, quand on veut absolument, dans une vision un peu manichéenne, qu'il y ait des gentils gilets jaunes et des méchants, on passe à côté de l'ambivalence de tout mouvement populaire. C'est-à-dire que le peuple ne doit pas être déifié. Ce mouvement populaire doit être compris parce qu'il est fondamental et parce qu'il faut absolument qu'il ouvre sur une période de révolution totale à la fois de nos institutions et de notre système économique, mais ça ne doit pas se faire dans l'oubli qu'il y a des ambivalences.
J'écris exactement l'inverse, je dis tout de suite que ce mouvement est un mouvement, un surgissement du peuple tel qu'il est, avec ses beautés et ses laideurs. Et je crois que je tiens ces deux bouts de la première à la dernière ligne de ce livre. Je dis juste que ce mouvement, s'il va du côté justement du versant identitaire, il trahira la promesse d'égalité qu'il a rassemblée. C'est tout, c'est mon analyse. Elle est discutable et vous avez tout à fait le droit de la discuter.
Et ce qui est passionnant, c'est d'en parler et d'en débattre.
C'est ce que nous faisons. Oui. Mais ce que je voudrais dire aussi, par rapport à notre vision d'en haut, nous, journalistes, par rapport à, je crois, puisque ce livre est nourri du terrain, du travail de Mediapart et des journalistes qui ont passé des heures, voire même de nos lives.
Et ceux de France Inter,
moi, je ne suis que Mediapart, donc je parle de Mediapart.
Oui, mais moi, je suis Marianne, mais je reconnais le travail des autres.
Je vous autorise tout à fait à parler de vos médias.
Mais je parle aussi de ceux du travail des autres.
Personne ne le fait aussi bien que vous, du vôtre.
Mais c'est bien. Et je serais entêté comme ça, mais restons sur sur l'essentiel et pas l'anecdotique.
C'est pas anecdotique, vous parlez du travail des journalistes justement.
Non, mais cette façon de dire c'est quoi les gilets jaunes, où vont-ils les gilets jaunes? Moi je suis désolé, toute expression collective des gilets jaunes. Je parle pas d'un leader autoproclamé et mis en évidence dans telle chaîne d'infos continue. Je parle pas d'un incident relayé sur les réseaux sociaux. Je parle de tout ce qui est élaboration collective par les Gilets jaunes. Un texte issu d'une assemblée, une discussion, un vote, un texte collectif. Je recite l'Assemblée de Commercy, 75 délégations. Tous ces textes sont sans ambiguïté sur cette question. Je rappelle que dans le texte de l'Assemblée des Assemblées de Commercy, les droits économiques et sociaux qui sont demandés, il est précisé, après avoir dit qu'ils sont contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, tout ce que vous voulez, il est dit qu'ils revendiquent ces droits sociaux pour toute personne résident en France, quelle que soit sa nationalité. C'est ça le fruit de l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. Jugeons les Gilets jaunes à partir de leur intelligence collective et pas à partir de tel ou tel Olibrius qui prétend parler au nom des Gilets jaunes.
Gilles.
Oui, mais c'est encore la même chose. C'est en fait vous sollicitez la réalité.
Non, la réalité d'un texte.
Où vous voulez en regarder une
partie.
Laissez
Gilles vous répondre.
Une des difficultés précisément de ce mouvement est la grande difficulté qu'il a depuis le début à se donner une représentation. Une représentation, une élaboration collective et des revendications qui sont des revendications partagées. C'est la grande difficulté depuis le début. Vous dites ce qui unifie ce mouvement, je vous ai lu là encore,
en tant que mouvement politique,
le présidentialisme, c'est l'ennemi, reprenant le cléricalisme, c'est l'ennemi. Est-ce que c'est vraiment le cas? L'ennemi pour le mouvement, de ce que moi j'en vois, des analyses que nous en avons faites, c'est Emmanuel Macron et c'est la représentation. Est-ce que c'est vraiment le présidentialisme? On pourrait le souhaiter. Là aussi, je crains que vous sollicitiez les événements. Si on les interrogeait, et nous allons le faire, par exemple sur la question de savoir s'ils souhaitent conserver l'élection du président de la République au suffrage universel direct, je ne doute pas de ce que serait la réponse. Et donc, là encore une fois, je pense que serait oui.
Non, comme, que tout le monde comprenne.
D'ailleurs, comme la majorité des Français, je pense que c'est à partir de ça qu'il faut
réfléchir
à la réforme des institutions.
Ils connaissent les réponses à leurs sondages avant qu'ils aient lieu, puisque vous ne doutez pas de leurs réponses. Mais je vous réponds à
Vraiment que les Français seraient prêts à renoncer à l'élection du président de la République au suffrage universel?
Je ne pense rien, et moi je ne prétends... Enfin, je pense des choses, mais je ne prétends pas penser à la place des Français, excusez-moi, Ali Badou. Je pense simplement une chose, que si la cible de ce mouvement, et c'est pour ça qu'il y a eu une grande peur des possédants, une grande panique, et une telle violence, je le redis, du maintien de l'ordre, une telle haine, et je le dis en rappelant la haine dont a été la commune de Paris, une telle haine dans l'expression contre ce peuple.
Et la haine contre le président de la République.
Mais parce que Emmanuel Macron est un concentré de cette question qui bloque ce pays.
Donc il mérite
de cette question, de ce verrou, et il y a ajouté en plus une morgue, et il continue. La dernière chose, c'est de dire, si vous allez manifester le samedi, vous êtes complice du pire. Le même jour,
mais la haine justement, contre le président
ou
est légitime,
ou le même jour, mais non, mais ne cherchez pas une petite phrase sur la haine.
Mais absolument
ce que
pas.
Je suis en train
c'est
de vous dire,
ce que vous
Ali Badou,
dites,
c'est ambiguë. Que la question, et vous ne pourrez pas m'en faire reproche, car sous tous les présidents, j'ai toujours maintenu cette question-là. Et je pense que la réalité me donne raison. Le verrou de notre pays, c'est cette question présidentielle. Et ce verrou, pour la première fois, nous avons un mouvement populaire qui nous le pose derrière. Et vous avez dit le mot représentation.
Et Pénel, ne confisquez pas la parole.
Bien sûr que la question de la représentation est posée. Mais elle est dans la tradition républicaine. Vous savez, le Drurolin...
Ne confisquez pas la parole.
Plus de présidents, plus de représentants. Un texte de 1853. Plus de représentants, plus de présidents.
Donc nous pouvons convenir que ce mouvement ne s'est pas concentré uniquement sur la question du présidentialisme et qu'en fait, le problème est beaucoup plus vaste. C'est une crise de la représentation en général, une crise des institutions et derrière cela, une question à la fois économique et sociale qui est celle du renouvellement des élites, de la possibilité qui est offerte à chacun de participer participer au pacte républicain. Mais c'est vrai que c'est assez réducteur de venir expliquer que tout cela se résume à la question
c'est la
du
question
présidentialisme.
De Banquet. Je veux dire, nous n'allons pas c'est sauver. C'est une vieille remarque de Karl Marx. C'est la question de Banquet.
Nous n'allons pas sauver la République uniquement en supprimant le présidentialisme, parce que ce que révèle cette crise, me semble-t'il, est beaucoup plus vaste.
La formule de Marx dit que c'est la question de Banquet qui fait levier. Il y a un moment, et c'est la question, il disait ça à propos de la question du suffrage universel en 1848. Dans tout moment où il faut faire levier pour changer l'ordre des choses ou pour que le train d'enfer s'arrête, il y a, et vous parliez des PME, des petits patrons et d'autres, il y a une question qui fait levier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait levier ? De président en président, et avec ce président qui a déçu la promesse dont il se croyait porteur, eh bien, c'est cette confiscation, c'est ce pouvoir personnel, c'est cette imposture,
c'est
ce crétinisme présidentiel, même comme je l'écris. Car ça les rend bêtes.
On peut, et je partage...
Et j'aurais une dernière question, parce que c'est important.
Cet excès de la concentration du pouvoir autour du président de la République qui va s'amplifiant, notamment depuis le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral. Et je pense qu'il faut essayer de revenir à un équilibre des pouvoirs qui soit plus sage. On n'en prend pas le chemin.
Du tout.
Mais je pense qu'il faut le faire, encore une fois, à partir des réalités. Et une des réalités à partir de laquelle je pense qu'il faut raisonner, c'est qu'on ne reviendra pas, quoi qu'on en pense, sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct.
Si c'est un président qui n'a pas tous les pouvoirs et qui ne nomme pas tout le monde,
et que c'est
pourquoi
donc,
pas.
C'est à partir de là, et c'est pas seulement, c'est bien au-delà de la question des nominations, dont vous notez qu'il y a eu une extension de ce pouvoir-là, ça va bien au-delà du pouvoir de nomination. C'est
mais
du fait c'est, que
c'est un
décisions, que
hein,
les
c'est
décisions
une société...
elles-mêmes sont de plus en plus concentrées à l'Élysée, au prix à la fois d'un dysfonctionnement de plus en plus important de ce système, d'une entropie à la tête de l'État.
Dont l'affaire donc, Benalla, qui est un chapitre de ce livre, est tout à fait la démonstration caricaturale jusqu'à
absolument.
Aujourd'hui.
Mais
et j'aurais une question malgré tout
avant
qu'on termine.
Raisonnons
à partir des réalités. J'aimerais juste que vous nous disiez pourquoi une victoire des vaincus, alors qu'on peut raconter une autre histoire que la vôtre, Edoui Plenel, un président qui a été élu, Emmanuel Macron, qui a gagné, qui a obtenu la victoire à la présidentielle au suffrage universel, élu par les Français, et qui aujourd'hui, peut-être, on ne sait pas, pourrait peut-être reprendre la main. Vous ne croyez pas à cette théorie-là ?
La victoire des vaincus n'est pas l'idée que, justement, elle se mesure comme ça. C'est la longue durée, tout simplement, de ceux qui peuvent être défaits pendant un moment, mais qui, au fond, portent les espérances de l'émancipation. Mais encore une fois, nous ne sommes le produit que de ça. Ce livre est un livre d'histoire. À propos des Gilets jaunes. Je ne raconte pas l'histoire des Gilets jaunes. À partir des Gilets jaunes, je fais une réflexion pour mêler et interpeller le présent face à la longue durée. Et la longue durée, encore une fois, que nous portons, quand nous partons d'idéaux, d'égalité, de liberté, de fraternité, eh bien, c'est cette histoire des vaincus victorieux.
Juste une question.
L'héritage benjaminien.
Oui, mais juste une question. Vous avez évoqué tout à l'heure avec Ali la question qui, à mon avis, est essentielle, qui est la question de la haine, de la montée de la haine et des tensions. C'est-à-dire que nous sommes face à une situation qui est, je pense, pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que la tension est devenue telle, il y a des choses qui semblent tellement insupportables, l'idée d'une confiscation du pouvoir et le besoin de retrouver de la part des citoyens leur souveraineté, que tout cela peut terminer très mal. Dans ce cadre-là...
Ou très bien,
comment
on ne sait pas.
Oui, mais attendez, quand je veux dire terminer très mal, ça veut dire que il y a dans les révolutions des excès et parfois des horreurs qu'on ne peut pas souhaiter. Comment fait-on pour qu'une révolution puisse se passer de façon raisonnable? Et est-ce que vous ne pensez pas que l'urgence, c'est avant tout justement d'essayer de ne surtout pas pousser à la haine, de ne surtout pas favoriser ces sentiments haineux, même vis-à-vis d'un président qu'on peut critiquer farouchement.
J'ai mon lot de haine, donc moi je ne suis pas dans ce registre-là. Je suis simplement dans le registre du souhait que ça vienne des travailleurs, que ça vienne des salariés, que ça vienne des retraités ou de la jeunesse, que l'on arrête d'aller dans le mur. Et actuellement, je pense que ceux qui nous dirigent nous envoient dans le gouffre et dans le mur. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne sont qu'en dans leur présent, que dans leur quête du pouvoir.
Mais c'est une raison pour leur couper la tête.
Dans
c'est ça la question.
Mais moi, je ne décide de rien. Je décide juste qu'il faut arrêter ces choses-là. Parce que c'est là qu'est la survie. Ou autrement, vous le savez, la catastrophe est là. et elle viendra.
Juste un mot d'explication, puisque vous citiez Marx, et cette question de banquet, c'est une phrase de Marx à propos de la révolution de février 48, on va pas faire un cours d'histoire, mais quand Marx écrit « toute révolution a besoin d'une question de banquet », qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire, c'est à partir de l'image des banquiers républicains, ça veut dire une question qui fédère tout le monde. Il y a des intérêts divers, il y a des beautés, des laideurs, des haines, des aigreurs et des générosités. Eh bien, il faut, pour faire levier, pour arriver à changer l'ordre des choses, il faut une question qui fédère. Je pense aujourd'hui que dans la diversité de notre peuple, la question qui fédère, c'est qu'il retrouve le pouvoir, qu'il ait le pouvoir, ce peuple, c'est la question démocratique. Et elle tient la question sociale, elle tient la question écologique, pour
on
pas
va
les
devoir
faire
conclure
des bêtises
l'émission
et ainsi de suite.
Gilles.
Oui, la question c'est est-ce qu'il y a une question de banquet ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs, c'est-à-dire des questions de banquet successives. Et vous centrez sur la seule question démocratique, je crois qu'il y a eu d'abord la question fiscale, la question du pouvoir d'achat, la question démocratique, effectivement,
et
puis
on va s'arrêter
la question
là.
D'Emmanuel
et
Macron et la question des violences policières.
Elle s'emboîte comme des poupées gigognes. Mais la question qui fédère tout le monde, encore une fois, c'est qu'on retrouve le pouvoir et qu'il arrête de nous le confisquer.
Et ce sera voilà. Le mot de la fin. Merci Louis Plenel et merci d'avoir participé à l'émission. La victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes est publiée aux éditions La Découverte. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. Réalisation David Leprince, à la technique Kevin Pelot. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour questions politiques. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin. Taxation des GAFA, que pèse-t-il vraiment en France ?